Badania europejskie.
Rozumią tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
F.Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. C'était il y a tout juste 10 ans, très exactement le 29 mai 2005, le non français au référendum sur le traité constitutionnel européen, suivi 3 jours plus tard par un non néerlandais, mettait un terme à l'adoption de la Constitution européenne. Du moins pour quelque temps, car faute d'un plan B promis par les donistes, le traité constitutionnel est réapparu quelques mois plus tard sous la forme du traité de Lisbonne qui en reprenait les grandes lignes. Peut-on parler d'un déni de démocratie comme l'ont proclamé haut et fort les tenants du non? Mais alors, question, pourquoi le non français aurait dû prévaloir sur le oui des Espagnols et le oui des Luxembourgeois? Plus largement, le fonctionnement de l'Union européenne s'est-il démocratisé à travers, par exemple, les pouvoirs nouveaux du Parlement européen à qui, paradoxalement, dès la mise en place du traité de Lisbonne, une émission toute en nuances, vous l'avez compris. Hubert Tancini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors et j'imagine qu'en 2005, vous avez appelé à voter oui.
Deux fois oui, même, avec Thierry Chopin, pour des questions liées à l'éthique de conviction, c'est-à-dire que le texte nous convenait, mais aussi un oui de responsabilité, parce qu'effectivement, il n'était pas possible d'avoir mieux, et d'ailleurs, il n'y a pas eu mieux.
Jérôme Carré, vous êtes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président, ou un des deux vice-présidents du mouvement des jeunes européens. Les jeunes européens, évidemment, ils ont voté oui.
Voilà, il y a eu une campagne pour, en faveur du oui, en 2005.
Michel Soudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Politis. Politis, on peut dire que c'est l'hebdomadaire de la gauche de la gauche. C'est une façon de le définir.
C'est une façon assez rapide. C'est un hebdomadaire, certes, de gauche, engagé, affilié à aucun parti en particulier, et qui marie les préoccupations sociales et écologiques.
Et en 2005, évidemment, Politis était plutôt du côté du non. Quand je dis plutôt...
Politis était un des très rares journaux à défendre le non. Et un triple nom, un nom européen, un nom anti-libéral et un nom de gauche.
Petit retour en arrière, au soir du 29 mai 2005, le constat est sévère, près de 55% des Français, Maria Fonso, rejettent le projet d'une constitution pour l'Europe.
Ce nom a mis en lumière l'écart qui se creusait entre l'Europe et les Français. On se souvient que les médias étaient largement favorables au traité, et au-delà des clivages traditionnels, la classe politique était elle aussi divisée sur le sujet. À cette époque, la droite au pouvoir, avec le président Jacques Chirac, fait alors campagne pour l'adoption de ce texte. De son côté, le Parti Socialiste organise un référendum interne pour déterminer sa position officielle. Ce sera un oui massif en faveur du texte. À gauche, ceux qui étaient contre, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, appellent à une autre Europe.
Je respecte la douleur de ceux qui ont défendu le oui, mais je vous demande de comprendre que c'est un non joyeux, populaire et un non pro-européen. Et maintenant, il faut être responsable et ne pas brasser son amertume. Il faut que les peuples d'Europe sachent que les Français ont dit non à une Europe, l'Europe libérale. Ils n'ont pas dit non à toute l'Europe. Alors, le chef de l'État, lui, il est incroyable. Le vote a à peine eu lieu, 55% sont pour le non, et il dit qu'il va en tenir compte, mais plaisante. Il a reçu un mandat du peuple français, un mandat clair. Les Français ne veulent plus de ce modèle de construction de l'Europe, le modèle libéral.
En 2005, Nicolas Sarkozy, alors président de l'UMP, faisait l'analyse de l'échec du référendum sur la Constitution européenne, extrait de sa déclaration.
Aujourd'hui, les Français se sont prononcés et ils ont dit non. C'est un événement politique majeur. Il faut entendre ce que les Français ont exprimé. En disant non, les Français nous appellent à des remises en cause profondes, rapides, vigoureuses. Les Français nous pressent d'en finir avec nos immobilismes, avec nos frilosités ou tout simplement avec nos habitudes. Les Français nous ont clairement signifié qu'ils voulaient une Europe plus protectrice, plus démocratique et plus à l'écoute de leurs préoccupations quotidiennes. Je regrette ce rendez-vous manqué avec le projet politique européen, car plus que jamais, nous avons besoin d'une Europe politique.
Un rendez-vous manqué aussi 3 jours plus tard aux Pays-Bas.
Le non français a donné des ailes aux Néerlandais. Le non est encore plus net, avec plus de 61% de voix contre. Réaction de deux députés sociaux-démocrates néerlandais, Thijs Berman et Godlieve Van Eteren.
Cela veut dire que vraiment, il y a un énorme clivage entre, je pense surtout le peuple de gauche et l'Europe telle qu'elle est.
Moi, personnellement, oui, je suis déçue parce que je suis pour le oui, parce que moi, je suis social-démocrate et je pense qu'avec le traité, il y a mieux d'avancer l'Europe sociale.
Quelques mois plus tard, les noms français et néerlandais au traité constitutionnel européen donnaient naissance au traité de Lisbonne.
Et c'est Nicolas Sarkozy qui, en 2007, est à peine arrivé à l'Élysée, qui remet sur la table le traité établissant une constitution pour l'Europe. À ceux qui hurlent au déni de démocratie, le message du président Sarkozy est clair. Je cite, « C'était une promesse de campagne » et il fait ratifier le traité en février 2008 par voie parlementaire.
Gilbert Tontigny, on va revenir bien sûr sur l'absence du plan B et sur l'adoption in fine du traité de Lisbonne, mais ce 29 mai 2005, est-ce que c'est la date symbole du décrochement, du désamour entre les Français et l'Union européenne, voire des Français avec l'Europe? Date symbolique?
Oui, en effet, c'est une date symbolique, on commémore 10 ans après. Il faut quand même rappeler, avant d'entrer dans le débat européen, pourquoi les gens ont voté non, parce qu'il y a eu, il se trouve, des enquêtes après le vote. Ils ont massivement voté non pour des raisons nationales. Parce que la situation économique et sociale française était mauvaise. Je pense que d'ailleurs, si on les refaisait voter aujourd'hui, ils voteraient encore non pour cette raison-là, parce que malheureusement, elle s'est pas du tout améliorée. Il faut quand même savoir que les Français en 2005 étaient d'abord franco-sceptiques, avant d'être eurosceptiques. Cela dit, les Français qui ont voté non ont été aussi eurosceptiques, en effet, avec effectivement une dénonciation de l'Europe telle qu'elle avait évolué, c'est-à-dire une grande Europe élargie avec un marché unique et des orientations libérales. Et ceci était un signal très important qu'il a fallu intégrer par la suite pour les responsables politiques français.
Michel Soulet, vous êtes d'accord, une date symbolique, ce 29 mai 2005 ?
Oui, c'est une date symbolique qui marque, je pense, une prise de conscience de l'évolution de l'Europe. Je sais bien que c'est assez commode de dire que les Français ont majoritairement voté pour des raisons nationales, mais dans le mode d'intégration où nous sommes, les questions nationales, elles sont directement dépendantes de l'Union européenne. Et on ne peut pas, de temps en temps, dire « Ah mais non, l'Europe c'est quelque chose d'à part » et ensuite dire « l'Europe finalement nous protège ». C'est quand même un slogan de campagne que les Français ont entendu maintes et maintes fois. L'Union fait la force ou autre. Dans les faits, ils ont vérifié que cela ne fonctionne pas. Et c'est une date symbole peut-être, mais pour les Français, mais c'est aussi pour d'autres Européens. Les Néerlandais ont voté non.
Et ce sont les Espagnols et Luxembourg,
ce sont des référendums où les populations se sont extrêmement mobilisées. Je vous rappellerai juste que les Espagnols ont certes voté oui, mais avec un taux d'abstention qu'ils n'avaient jamais vu depuis la fin du franquisme.
Jérôme Carré, vous étiez trop jeune en 2005, vous n'avez pas voté, hein.
J'avais 16 ans en effet, j'ai pas pu voter. J'ai tenté de convaincre mes parents d'aller voter, parce qu'ils ont reçu donc toute la paperasse.
Oui, comme nous tous, hein, c'était un moment très difficile pour les facteurs, hein,
exactement.
L'année 2005.
Et très difficile pour les électeurs de comprendre toute cette paperasse. Et j'ai essayé de les convaincre d'aller voter. Ils m'ont dit, si t'es capable de lire tout ça et nous faire une synthèse et nous expliquer pourquoi c'est important d'aller voter, on y va. J'ai essayé. Et j'ai pas réussi.
Ils ont voté non.
Et ils ont pas été votés.
Ils se sont abstenus.
Ils se sont abstenus et c'était mon premier échec d'Européen. Je me suis dit plus jamais. Maintenant, il faut que je sache comment expliquer aux gens l'importance du vote.
Et c'est là que vous avez rejoint les jeunes Européens. Ou à peu de choses près.
Alors, Michel Soudet. De ce référendum, c'est tout de même qu'il y a eu une participation électorale comme on n'a jamais vu en France dans aucune élection européenne depuis même en 1979.
Et un débat extraordinairement passionné.
Extraordinairement passionné. Et un niveau de participation équivalent au référendum sur le traité de Maastricht, où là on a pu voir une évolution entre, d'un côté, il y avait eu les promesses, et au moment de voir le résultat des promesses, les gens se sont dit on nous avait berné, on nous a trompé pour différentes raisons, ils ont voté non.
Alors le plan B, on a bien constaté qu'il n'y en avait pas au lendemain du 29 mai, puisque l'agrégat des noms ne formait pas un projet cohérent, mais des options pour le moins divergentes. Dans le non, il y avait des noms de gauche, des noms de droite souverainiste, des noms d'extrême droite, en tout cas un agrégat extrêmement différent. Alors moi, la question que je me pose, c'est lorsqu'on dit, on parle de déni de démocratie, en quoi le oui des Espagnols et des Luxembourgeois devaient-ils s'incliner devant le nom des Français et des Néerlandais? Qui veut rebondir? Évidemment Michel Soulet, mais Gilbert Tontigny.
Mais non, mais en rien. C'est-à-dire que le oui de responsabilité, c'était de constater que chaque peuple, soit directement, soit par la voix de ses représentants parlementaires, allait devoir ratifier le traité constitutionnel européen. Avec évidemment la possibilité de dire non. D'ailleurs, deux peuples ont pris cette possibilité à l'issue d'un grand débat démocratique qui s'est conclu de manière claire et nette, non en France. Mais à partir de là, il fallait continuer à essayer de conclure un compromis entre 28 États-nations qui sont tout aussi légitimes. Et donc, le non à ce traité-là, traité constitutionnel européen, ça ne voulait pas dire qu'on ne ferait plus jamais de traité, jamais, pour les siècles et des siècles. Et donc, effectivement, au moment de négocier un autre traité, qui n'est pas le traité constitutionnel européen, qui est un traité différent, le traité de Lisbonne, eh bien, il a été question d'intégrer certaines aspirations exprimées en France, exprimées aux Pays-Bas, mais aussi les aspirations des 26 autres peuples. Et on a abouti à ce compromis qui est le traité de Lisbonne. La démocratie européenne, c'est l'union politique dans la diversité démocratique. En fond, on retrouve ce même sujet aujourd'hui dans les débats entre l'Union européenne et la Grèce. Il y a un peuple grec qui s'est clairement exprimé en mettant au pouvoir Syriza. Et pour autant, la voix d'un peuple doit être conjugué à ce que souhaitent les 27 autres peuples.
Alors, Michel Toulet, je reviens un petit peu à ce que disait Jean-Luc Mélenchon au soir de ce 29 mai. Il dit, bon, voilà, les Français ont dit non, et donc, par définition, l'Europe doit changer. Est-ce que la vision des Français, et notamment celle de Jean-Luc Mélenchon qu'on a entendu, c'était pas, en gros, l'Europe, ça doit être la France en plus grand. Si la France a décidé, ben, c'est terminé, l'Europe doit s'aligner.
Non, c'est pas la France en plus grand. Si on avait une démocratie, ce serait déjà bien. C'est intéressant quand vous dites en quoi le oui luxembourgeois, etc. Mais attendez, moi j'aurais rien contre un référendum dans toute l'Union européenne et qu'on compte, mais pas une situation où chaque pays compte pour un et pas plus. Parce qu'il y a des tailles différentes, il y a des populations en nombre complètement différentes. Là, quand on dit ça, un pays compte pour un, on est dans l'intergouvernementalité. C'est exactement le problème qui se pose à l'heure actuelle, où tout se fait et essentiellement en négociation entre États, où on est dans ça se fait selon les normes de la diplomatie traditionnelle, c'est-à-dire dans le secret. Il peut pas y avoir de démocratie sans transparence, sans débat public. Voilà le problème.
Pour le débat Allemagne-Grèce, comme les Allemands sont 8 fois plus nombreux que les Grecs, vous diriez qu'ils doivent compter 8 fois plus que les Grecs ?
Je ne dis pas ça. Essayons de mettre les choses sur la table de manière générale, avec l'ensemble des pays. L'Allemagne a tendance à imposer ses vues avec un certain succès à l'ensemble des autres pays de l'Union européenne, mais où demande-t-on l'avis des peuples européens? Et là, on est dans des négociations un peu particulières, où essentiellement, c'est l'économie qui a pris le dessus. C'est un autre problème.
Alors, effectivement, que l'économie domine un peu le monde, c'est une évidence, mais ça dépasse évidemment le traité constitutionnel de 2005. Nicolas Sarkozy, il expliquait dans le petit reportage qu'on a entendu, il a dit, bah, moi, c'était clairement dans mes propositions de campagne, si j'arrive au pouvoir en 2007, je renégocierai et il y aura un traité qui a donné le traité de Lisbonne. Ça s'appelle la démocratie représentative.
Je renégocierai, c'est le coup qu'on nous fait à chaque fois. Nicolas Sarkozy l'a fait, François Hollande l'a fait. Au final, il n'y a pas de renégociation. Le traité de Lisbonne a été expurgé de quelques dispositions mineures de la Constitution européenne et essentiellement symboliques, mais ce qui a été rejeté en France, ce qui avait été rejeté aux Pays-Bas, se retrouve inscrit exactement de la même manière. Alors après, on n'appelait pas ça constitution, mais ça joue exactement de la même façon, puisque les traités sont supérieurs à la législation nationale et s'imposent à nous, donc...
Mais c'est aussi parce que les nonistes, que j'appelle comme ça, n'avaient aucun plan B. Et ils n'ont pas été en mesure d'écrire une alternative.
Est-ce que c'était à eux d'avoir un plan B? Non, d'ailleurs, ils ne l'ont jamais prétendu. Oui, la notion de mandat, c'est quelque chose que nos hommes politiques ont tendance à oublier. Ils font des promesses, ils ne les tiennent pas. Et ils ont déconsidéré la notion de mandat. Ce en quoi le 29 mai marque une date très importante en France, c'est que, compte tenu de la postérité de ce vote, du non-respect de ce vote, les Français ont commencé à se détacher bien plus massivement de la politique, à ne plus faire confiance aux politiques, et à partir dans l'abstention ou dans le vote le plus extrême, qui est celui du Front National.
Jérôme Quéret, qu'est-ce que vous avez expliqué à vos parents le soir du 29 mai? Vous auriez dû aller aux urnes, ou qu'est-ce qui s'est passé pour vous, psychologiquement et politiquement?
Pour moi, ça a été un choc. J'étais encore très jeune, mais pour moi, l'Union européenne, c'était une évidence. La construction, c'était quelque chose de très positif. J'étais très jeune, mais j'avais déjà cette passion-là.
Une fibre.
Voilà. Mais c'était pas le cas de mes parents. Alors, c'est peut-être une question générationnelle, mais je trouve que les jeunes générations, pour eux, c'est plus une évidence. On a grandi avec l'euro, on a grandi avec les possibilités d'Erasmus. Peut-être que les jeunes générations sont plus sensibles.
Yves Bertoncini.
Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un nom, mais plusieurs noms. Alors, il y avait par exemple un nom d'extrême droite. L'extrême droite, dans les nonistes, ça représentait une fraction significative. Il a été suivi d'effet, par exemple, sur un sujet. C'était le non à la Turquie. 10 ans plus tard, est-ce que la Turquie a adhéré à l'Union européenne? Non. Est-ce qu'elle en est prête? Encore moins. Donc, il a été suivi d'effet. Deuxième exemple.
Il n'en était pas question dans le texte.
Au cœur de la campagne du référendum. Et ce qui a été greffé au texte, c'est que, comme on parlait des racines chrétiennes de l'Europe, j'ai fait beaucoup de débats à l'époque, vous aussi sans doute, dans beaucoup de salles, il y avait une hostilité qui se manifestait à la Turquie. Est-ce que ça a été suivi d'effet par les autorités françaises? Oui. Il y avait une hostilité à la directive Bolkestein, qui allait faire déferler sur la France des bombes polonais. La directive Bolkestein, directive service...
Les bombes polonais, c'est Bolkestein lui-même qui a employé l'expression pour la première fois.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. J'essaye de décrire ce qui étaient les motivations des nonistes. Et ça, c'était des motivations peut-être plutôt du nom de gauche. La directive Bolkestein, elle a été réécrite, la directive service. Les plombiers polonais, enfin, je ne sais pas si vous en avez vu en France, moi, je les ai pas vus. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait
des problèmes. C'est déjà très difficile de rencontrer un plombier tout court.
Sur la directive détachement, et qui est toujours un problème. Ça, c'est exact. Mais revenons simplement, pour finir, sur le texte. Ce ne sont pas les mêmes textes. C'est un mythe. Le texte de la Constitution européenne faisait 480 pages au journal officiel. Le texte du traité de Lisbonne fait 283 pages. Le référendum constitutionnel européen n'était pas un référendum abrogatif. Il n'allait pas abroger les traités qui étaient déjà en vigueur. Donc, en effet, les dispositions des traités qui étaient déjà en vigueur depuis le traité de Rome, ils sont restés en vigueur. Mais le traité de Lisbonne ajoutait des dispositions. Il ne les reprenait pas toutes. Deuxièmement, à l'intérieur des dispositions qu'il ajoutait, il y a eu des changements de fond, qui allaient d'ailleurs plutôt en direction du nom néerlandais ou du nom souverainiste. C'est-à-dire qu'on a enlevé, par exemple, l'article inventoriant les symboles de l'appartenance à l'UE. On a arrêté de faire référence à la primauté du droit communautaire. On a laissé un commissaire par État membre, etc. Des éléments souverainistes. Et puis, il y a quelques petits changements aussi qui vont dans un sens plus social et environnemental. Par exemple, la concurrence libre et non faussée ne figure plus comme objectif de l'Union européenne. On a rajouté des choses sur le changement climatique, etc., etc. Mais surtout, dernier point, dans ce traité constitutionnel et dans le traité de Lisbonne, il y a beaucoup de dispositions identiques, en effet. Est-ce qu'elles étaient toutes contestées par les nonistes? Je prends un exemple. Il y avait 50 articles qui donnaient plus de pouvoir au Parlement européen. Alors, les 50 articles qui étaient dans le traité constitutionnel, ils se retrouvent intégralement identiques, effectivement, dans le traité de Lisbonne. Est-ce que les nonistes étaient contre ça? Un exemple très précis. Le traité constitutionnel, puis le traité de Lisbonne, permettait au Parlement européen désormais d'avoir un droit de veto sur les accords commerciaux internationaux. Par exemple, sur le TAFTA.
Sur le traité transatlantique.
Ou l'ACTA, qui d'ailleurs était rejeté par le Parlement européen. Est-ce que ça, les nonistes étaient défavorables à cela? Voilà, je pose cette question. Je crois que la situation est infiniment plus nuancée qu'on ne l'a laissé croire. Le non a été en partie suivi des faits, mais pas intégralement, en effet, parce qu'il était divers. Le non d'extrême droite n'est pas le non de gauche, et parce que, et ça reste une réalité aujourd'hui, pour construire l'Europe, il faut la construire à 28, et évidemment, les 27 autres pays ne peuvent pas s'aligner intégralement sur une fraction majoritaire du corps politique français ou du corps électoral français, de la même façon d'ailleurs qu'ils ne s'aligneront pas sur une fraction certes majoritaire du peuple anglais qui va vouloir renégocier son appartenance.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps des infos avant de retrouver nos invités dans 3 minutes très exactement et de poursuivre notre débat 10 ans après le non-référendum sur le traité constitutionnel. L'Union européenne est-elle oui ou non démocratique? À tout de suite.
Europejskie.
Kruzymią tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. C'était il y a tout juste 10 ans, le 29 mai 2005, le non français au référendum sur le traité constitutionnel européen, suivi 3 jours plus tard par un non néerlandais, mettait un terme à l'adoption de la constitution européenne. Du moins, pour quelques temps, car faute d'un plan B promis par les nonistes, le traité constitutionnel est réapparu quelques mois plus tard sous la forme du traité de Lisbonne qui en reprenait les grandes lignes. Peut-on parler d'un déni de démocratie comme l'ont proclamé haut et fort les tenants du non? Et plus largement, le fonctionnement de l'Union européenne s'est-il démocratisé à travers, par exemple, les pouvoirs nouveaux du Parlement européen qui, paradoxalement, dès la mise en place du traité de Lisbonne. Je vous représente rapidement nos invités. Yves Bertoncini, il est le directeur de l'Institut Jacques Delors. Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Politis, qui consacre un grand dossier cette semaine dans son numéro traité constitutionnel européen, 10 ans de déni démocratique. Jérôme Quéret, vice-président du mouvement des jeunes européens. Alors, avant de revenir sur l'aspect démocratique ou non de l'Europe, sur la surface du globe, y a-t-il de nombreux espaces aussi démocratiques que l'Union européenne, des espaces où les libertés individuelles sont garanties, où le respect des minorités religieuses, sexuelles sont garanties, où encore l'état de droit fonctionne? Et je pourrais poursuivre encore assez longtemps sur ce registre. Jérôme Quéret, j'imagine c'est une question que vous êtes posée dans votre engagement européen.
Oui, l'exemple européen est fabuleux. Des pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles et des siècles, qui maintenant vont main dans la main, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas qui ont réussi à instaurer la paix et la coopération. C'est quelque chose d'incroyable et on ne devrait pas en avoir honte et on devrait le porter fièrement.
Qui plus est, dans une relative prospérité.
Oui.
Relative, elle est remise en cause par la crise, avec un pouvoir d'attraction phénoménal. De nombreux pays veulent adhérer à l'Union européenne encore aujourd'hui, sans parler de tous les migrants qui veulent rejoindre l'Union européenne. Michel Soudet.
Pourquoi veulent-ils adhérer à l'Union européenne? Certainement pas pour faire partie d'une communauté politique.
C'est une question.
Les derniers arrivants, quand on voit comment ils votent aux élections européennes, avec des taux d'abstention de 80%, ça devrait interpeller. Ça veut dire qu'ils en ont strictement rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est adhérer à un marché, une zone qu'ils pensent être de prospérité, en tous les cas, de plus grande prospérité que leur situation au moment d'adhérer. Deuxième raison, ils veulent y adhérer parce que ils se mettent sous le bouclier occidental, c'est-à-dire le bouclier états-unien. Parce que là aussi, l'Union européenne, quand on adhère à l'Union européenne, quasiment instantanément, on adhère en même temps à l'OTAN, des fois c'est fait avant, mais en tous les cas, c'est le même bloc. Voilà les raisons, mais pas pour faire partie d'une communauté politique. Et on le ressent très très bien ensuite au niveau, si on veut faire une démocratie, ça ne peut pas fonctionner.
Michel Soudet, vos propos interpellent Jérôme Quéret.
Oui, est-ce que c'est réellement qu'ils n'en ont rien à faire, ou plutôt est-ce que c'est un désintérêt au niveau de la politique générale? Pas un désintérêt, mais je dirais une méfiance envers la politique en général et un manque d'information et de pédagogie. Quand j'ai rencontré des jeunes de ces nouveaux, entre guillemets, États membres, lors de mon année Erasmus, on voyait l'engouement et la volonté de faire partie de l'Union européenne. Ça existe, c'est pas pour autant qu'ils sont allés voter. C'est-à-dire qu'ils sont déçus de la politique en général, comme les Français sont déçus de la politique en général au niveau national, et ça se ressent également au niveau européen.
Petite pression, où étiez-vous en Erasmus ?
En Espagne.
En Espagne. Yves Bertoncini, que reprochent finalement les Européens ? Est-ce qu'ils font une différence entre l'Europe, qui est d'abord une réalité géographique, l'Union européenne, qui est une réalité politique en construction depuis 60 ans, et le fonctionnement des institutions européennes, qui est finalement, évidemment, plus facilement critiquable? Est-ce qu'il n'y a pas un mélange d'un peu tout?
Oui, c'est l'unité dans la diversité, y compris dans ce qu'on peut apprécier ou reprocher à l'Union européenne.
C'est la confusion dans le tout.
Je vais vous prendre un exemple dans la période récente. L'Europe, récemment, ne s'est pas rendue populaire, puisque dans 4 pays, elle est devenue l'Europe FMI. L'Europe FMI en Grèce, au Portugal, en Irlande et à Chypre. L'Europe FMI est devenue aussi populaire que le FMI, c'est-à-dire aussi impopulaire que le FMI. Le FMI s'en moque de sa popularité. Pour l'Europe, c'est plus gênant.
On n'élit pas des députés au FMI.
Pourquoi est-elle devenue impopulaire? Pour deux raisons totalement contradictoires. Parce que dans les pays sous programme, dont la Grèce, elle a été assimilée à trop d'austérité, à une façon de se comporter avec des messieurs en costume gris qui arrivent à l'aéroport qui est une façon éphémiste, c'est-à-dire pas très démocratique, dans une rupture de souveraineté. Et puis, de l'autre côté, elle a aussi été critiquée parce que c'était trop de solidarité, au contraire. C'est-à-dire que vous avez, en Allemagne, en Finlande, en Slovaquie, dans les Pays-Baltes, des peuples qui ont accepté d'aider la Grèce ou l'Irlande, mais de mauvaise grâce. Mais qui ont accepté quand même de le faire, parce qu'ils étaient attachés à l'union monétaire. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, si on veut bien regarder les élections et les sondages, les deux, on voit bien qu'aucun peuple ne souhaite sortir de l'union monétaire. Pas même la Grèce. Alors, c'est là où on est en trompe-l'œil souvent, c'est-à-dire que faire fonctionner la démocratie européenne, c'est donc faire amalgamer les 28 démocraties nationales qui fonctionnent chacun selon leurs règles propres, qui expriment des opinions qui sont contradictoires, avec des leaders qui les incarnent, et c'est comme ça qu'on construit l'Europe. L'Europe ne peut pas être construite entre Français, sinon ça s'appelle la France.
Michel Soudet, vous voulez réagir?
Effectivement, sur l'histoire de la Grèce, il y a un certain nombre de pays où les opinions publiques estiment qu'elles ont déjà aidé assez, trop aidé, donc elles refusent une solidarité. Mais on remet en question cette histoire de aider la Grèce. Les pays qui l'ont fait ne l'ont pas fait gratuitement. Je vous rappelle que lors du premier passage devant le Parlement, Christine Lagarde, qui était ministre des Finances, il me semble bien qu'elle avait expliqué aux députés que ça allait nous rapporter, parce que on avait prévu quand même d'y mettre des intérêts, donc on allait quand même y gagner quelque chose. Et des pays comme la France, effectivement, comme l'Allemagne, ont sauvé la Grèce, mais avant tout pour sauver leurs banques qui étaient engagées. Elles ont passé l'argent qui était dans les coffres des banques, elles l'ont mis sur leur propre compte pour dégager leurs banques. Donc, c'était pas de la philanthropie à l'égard du peuple grec. Et même chose, on s'est aperçu aussi que des fois, en contrepartie, il y avait l'obligation d'acheter du matériel dans ces États, comme des armes auprès de l'Allemagne.
Ça, c'était avant.
Ça a continué ensuite. C'est-à-dire, il y a eu de l'argent donné pour que la Grèce achète des armes à l'Allemagne.
Écoutez, le point de départ de la crise de la Grèce, c'est les Grecs, c'est pas l'Europe quand même.
C'est les Grecs et l'Europe, y compris Mario Draghi du temps où il dirigeait Goldman Sachs en Europe.
Alors, je voudrais revenir un peu sur le traité de Lisbonne, et dans ce traité de Lisbonne, avec la nécessité de recréer des liens avec les citoyens, il y a une idée pour recréer du lien avec le citoyen européen, et cette idée s'appelle l'initiative citoyenne européenne, en abrégé ICE. Et pour mieux comprendre cette ICE, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Judith Sinige, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Je résume le principe de l'initiative citoyenne européenne. Si 1 million d'Européens venant d'au moins 7 pays se prononcent par voie d'une pétition géante, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, sur un projet, un désir de réforme, la Commission européenne se doit de l'examiner, de se prononcer et en théorie de rédiger un projet de directive, c'est-à-dire un projet de loi européenne. Alors pour l'heure, ces ICE sont encore peu nombreuses, mais il y en a une qui en ce moment pose problème, c'est celle sur le traité transatlantique. Le moins qu'on puisse dire, Judith, c'est qu'il y a un blocage.
Absolument, absolument. Alors, notamment, je voudrais vous parler d'un papier d'un quotidien suisse qui s'appelle la Neue Zürcher Zeitung. Vous pouvez le lire en français sur le site de Courrier International, évidemment. Alors, c'est justement cet article qui se penche sur ce nouvel outil qui a été mis en place par le traité de Lisbonne qui avait donc pour but de rendre l'Union européenne plus démocratique, comme vous le disiez tout à l'heure. Il a été mis en place en 2012. Et cet outil, donc cette initiative citoyenne européenne, permet à tous les citoyens européens de proposer une nouvelle loi, une nouvelle législation. Et pour cela, il faut en effet au minimum 1 million de signatures des citoyens européens répartis sur au moins 7 États membres. Or, le problème que relève notamment ce papier du Neue Zürcher Zeitung, c'est que la Commission a la possibilité de refuser ces initiatives, de les rejeter, même si 1 million de personnes la soutiennent donc. Et donc, c'est à plusieurs reprises, c'est exactement ce que la Commission a fait. Donc, notamment, comme vous disiez tout à l'heure, avec l'initiative citoyenne européenne contre le TTIP, le partenariat transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. En 6 semaines, d'ailleurs, cette pétition avait récolté 900 000 signatures. Donc, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, c'est important.
Absolument. Mais la Commission a estimé que les négociations pour le TTIP ne sont pas un acte normatif. Elles ne sont pas une loi ou une réglementation. Et donc, la Commission estime qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'une initiative citoyenne européenne. Et une dernière initiative qui est mentionnée par le papier de la NZZ est l'initiative Law, un droit humain. qui s'opposent à la privatisation de la distribution de l'eau. Et les organisateurs de l'initiative estiment que l'eau, c'est un droit humain et ça devrait être inscrit dans la loi européenne. Or, c'est la seule initiative à laquelle la Commission, jusqu'à ce jour, a donné une suite favorable. Mais là encore, le résultat, il est mitigé parce que les organisateurs de la pétition sont déçus par l'attitude de la Commission. Pour l'instant, la Commission, elle a juste lancé une consultation publique et il n'y a pas de changement législatif en vue pour reconnaître l'eau comme un droit humain fondamental. Donc, les organisateurs de l'initiative sont déçus.
Judith, merci. C'est évidemment un article à lire sur le site de courrierinternational.com. Yves-Bertrand Chimie, c'est un peu l'ami du genre, cette initiative citoyenne européenne.
En tout cas, c'était un exemple de l'ouverture démocratique incarnée par le projet constitutionnel européen, repris tel quel par le traité de Lisbonne. Maintenant, on a une initiative qui commence à fonctionner et qu'il faut d'abord faire mieux fonctionner, y compris en modifiant les règles. Par exemple, il y a 12 mois de délai de collecte, c'est trop court. C'est quand même très difficile de réunir 1 million de signatures dans 7 pays en 12 mois. Il y a des discussions qui sont en cours pour élargir ce délai. C'est un exemple de simplification et de droit d'accès plus large. Et puis après, évidemment, il y a la façon dont les autorités européennes peuvent tenir compte davantage de ce qui est proposé par ces groupes de citoyens qui viennent donc de 7 pays au moins et qui réunissent 1 million de signatures, sachant que ça coexiste avec aussi la démocratie représentative, puisqu'il y a des parlementaires européens qui sont chargés avec les ministres de voter des directives, et que, sauf à considérer que ces gens-là n'ont aucune légitimité ou que leur légitimité est moindre que celle du peuple, c'est une théorie possible, il faut aussi tenir compte de la façon dont ils peuvent accueillir ces initiatives. Mais ce qui est certain, c'est que il faudrait que davantage d'initiatives puissent être lancées et que davantage d'entre elles puisse être suivi des faits au niveau de la Commission européenne.
Alors Michel Soudé, un progrès, cette initiative citoyenne européenne dont on voit les limites?
On avait dit dans la campagne du non que c'était un leurre. Et le résultat tend à prouver qu'on avait tout à fait raison. D'abord parce que la Commission peut refuser, on l'a vu. Ensuite parce que ce que proposent les citoyens doit être conforme au traité. Et là, je rappelle qu'en matière de démocratie, bien des présidents de commission ou des commissaires ont dit ce qu'il fallait en penser. La dernière déclaration la plus importante, c'est celle de Jean-Claude Juncker, fin janvier, après les élections en Grèce, dans un entretien au Figaro, où il déclare qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est-à-dire que tout ce qui a été décidé auparavant, on ne peut pas revenir en arrière. C'est bien souvent ce qu'on appelle l'acquis communautaire. C'est un système de cliquets. Ensuite, on voit que, comme dans ces traités, il y a est complètement inscrit, comme dans constitutionnalisé, des règles économiques, ce qui ne s'est jamais vu à part dans l'Union soviétique sous Staline. On est coincé.
Jean-Pierre, vous vouliez intervenir d'un mot sur cette initiative citoyenne européenne.
Par rapport à l'initiative citoyenne européenne, évidemment, elle n'est pas optimale, mais plutôt que de vouloir la détruire, il faut l'améliorer. Donc, il y a des discussions en cours, et les jeunes européens ont pris position dans leur appel des jeunes pour l'Europe pour une réforme de cette initiative citoyenne européenne pour la rendre plus accessible. Évidemment, pour le délai des 12 mois, mais la rendre plus facile d'accès aux citoyens et pour rendre le débat obligatoire devant le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne lorsque il y a suffisamment de signatures.
C'est d'ailleurs l'un de vos 24 préconisations pour améliorer le fonctionnement de l'Union européenne. Plus largement, je veux dire, Yves-Bertrand Chini, Michel Soudet, Jérôme Quéré, pour qu'il y ait un fonctionnement plus démocratique de l'Union européenne, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un vrai gouvernement européen?
Je vais essayer de répondre à ça simplement en reprenant au vol la comparaison avec l'Union soviétique. Alors, c'est intéressant parce qu'au moment de la rédaction du traité constitutionnel européen, les pays d'Europe centrale et orientale qui allaient adhérer à l'Union européenne ont dit « bah oui, nous on ne veut pas adhérer à nouveau à une union dont on ne peut pas sortir ». Donc l'un des apports du traité constitutionnel européen, repris tel quel par le traité de Lisbonne, c'est qu'il y a un article 50 qui permet de sortir de l'Union européenne. Peut-être que d'ailleurs les Anglais vont en faire usage l'année prochaine ou dans 2 ans. Il n'y a même pas besoin d'un référendum pour ça, ça peut être un vote du Parlement. Donc sur cette base, la comparaison avec l'Union soviétique est totalement déplacée.
Je n'ai pas parlé de ça.
Européenne n'est pas l'Union soviétique, on peut en sortir. Maintenant, à partir du moment où on veut y rester, c'est comme l'Union monétaire. Si on veut y rester, ça impose effectivement quelques avantages et quelques contraintes. Voilà. Deuxième point, Les traités européens sont âprement négociés pendant des mois et des mois. Ils sont tels qu'ils sont établis, mais ils sont modifiés assez souvent. Le traité de Rome, il y a eu plein de traités, d'ici, bien sûr. Il y en aura encore d'autres. Il y a eu récemment un traité budgétaire qu'on peut tout à fait contester dans ses dispositions, bien sûr. Mais de là à dire que tout est toujours figé sans bouger, c'est quand même un autre sujet. Et ensuite, ils sont exploités en fonction des rapports de force politiques et en fonction des circonstances. Je prendrai juste un exemple. La Banque Centrale Européenne, dont on a parlé tout à l'heure, n'a pas vu son traité, son statut modifié ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui a changé dans son statut et dans les missions que lui assigne le traité. Or, il se trouve que depuis 4 ou 5 ans, à l'intérieur du même traité, elle a quand même adopté des décisions qualifiées de non conventionnelles
qui sont à l'opposé
relativement bienvenues,
de sa
à mon
mission,
avis, d'ailleurs,
initiale.
Et qui, quand on parle du quantitative easing, le rachat des dettes sur le marché secondaire, donc ça prouve bien qu'à l'intérieur du même traité, y compris pour une institution qui n'est pas pour le coup une institution représentative, hein, on n'élit pas les banquiers centraux, il y a des moyens d'exploiter dans un sens ou dans un autre. Et c'est la même chose, évidemment, au Parlement européen, à la Commission européenne. La Commission européenne de M. Juncker a été mise en place à l'issue d'un processus démocratique. Il y a des commissaires qui sont de droite, de gauche, de sensibilités différentes. Et ils exploitent les bases juridiques du traité dans un sens et dans un autre, avec l'accord des parlementaires européens et des chefs d'État et de gouvernement. C'est quand même ça aussi l'ancrage démocratique, direct ou indirect, de l'Union européenne.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, l'Union européenne est-elle démocratique? Nous sommes avec Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Politis, et Jérôme Quéré, vice-président du mouvement des jeunes européens. Alors, je reviens quand même à ma question. Pour que l'Europe soit démocratique, est-ce qu'elle peut l'être s'il n'y a pas de gouvernement européen? Jérôme Quéré, il y a longtemps qu'on vous a pas entendu.
Oui, en effet, il faut un réel gouvernement européen et une vision européenne. C'est là où le bât blesse. Il n'y a pas de vision claire. C'est, on répond à, par petits bout, on colle des scotchs là où ça fuit au niveau de la crise, mais il n'y a pas de réelle vision sur du long terme. Ça manque de propositions pour l'avenir et on répond simplement à des problèmes à court terme. C'est un réel problème et c'est pour ça que les jeunes européens sont en faveur d'un État fédéral et il est grand temps pour nous de faire ce saut.
Alors il y a eu un petit plus, en tout cas moi je l'ai perçu ainsi, lorsqu'il y a eu avec les élections européennes la personnalisation, chaque grand parti européen ou rassemblement de partis nationaux qui ont formé des partis européens avait un leader, pour les conservateurs Jean-Claude Juncker, pour les socialistes Martin Schulz, pour la gauche radicale Alexis Tsipras, etc. etc. Est-ce que c'était déjà le début de quelque chose, Jean-Claude?
Oui, déjà, il y a eu un débat entre les têtes de liste européennes. Donc ça gomme un petit peu cet aspect franco-français lors des débats. Donc c'est quelque chose de positif, mais il faut aller encore plus loin. Si ces débats étaient passés sur France Télévisions, par exemple, ça aurait été mieux.
Effectivement, on peut marquer, on peut le souligner, l'absence de France Télévisions dans ce débat. Alors, il reste quand même une contradiction majeure. Si on veut qu'il y ait plus de démocratie en Europe, il faut que l'Europe ait peut-être plus de pouvoir, qu'elle prendra forcément auprès des États-nations qui n'ont pas très envie de le laisser filer. Et les citoyens européens nonistes au sens large du terme, les souverainistes, ceux qui sont à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, sont pas très favorables à laisser encore un peu plus de pouvoir aux institutions européennes. Michel Soudet.
De notre point de vue, le premier problème qui englobe déjà tous les autres, et c'est le fait que ces fameux traités, et c'est pour ça que j'en parlais, codifient une politique économique et imposent une politique économique. Dans quelle démocratie imagine-t-on qu'on puisse, que des pans entiers de ce qui fait le quotidien des gens soient intouchable. Il y a des tas de règles qui font que tout est corseté. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a eu certes des progrès dans ce que le Parlement européen peut, décider, co-légiférer, puisqu'il est toujours co-législateur. Mais le Parlement européen, il n'a toujours pas les prérogatives qui sont celles historiques d'un Parlement. Il ne vote pas les recettes du budget, ce qui était la base de tous les parlements quand ils se sont créés dans l'histoire. Ensuite, ça reste un simple partenaire législatif et il y a des domaines essentiels qui lui échappent toujours.
Parce qu'ils sont dans du domaine de la compétence des nations et des États.
Non, parce qu'ils touchent aussi au marché.
Yves Bertoncini.
je crois que on surestime les pouvoirs de l'Union européenne. Il y a des pouvoirs de l'Union européenne en matière économique et monétaire, en matière agricole, en matière de pêche, en matière commerciale. Mais en réalité, à l'intérieur de l'Union européenne, les États membres conservent l'essentiel des pouvoirs, des compétences. C'est si vrai qu'il y a des différences de niveau de dépenses publiques sur le PIB de 20 points, entre la France et l'Allemagne de 10 points. Les législations sociales, on ne peut pas dire à la fois qu'il y a de la concurrence sociale illégale parce que, ou déloyale, pardon, parce que les normes sociales sont pas les mêmes, ce qui est vrai, elles sont pas les mêmes, et dire que tous les pouvoirs sont au niveau européen. On ne peut pas dire non plus qu'il y a de la concurrence fiscale déloyale, ce qui est vrai, mais dire en même temps que toutes les normes fiscales sont au niveau européen. Tout ce qui relève de l'éducation de nos enfants, c'est au niveau national, voire même régional, que ça se tient. La sécurité, le logement. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que le taux de participation aux élections européennes est limité. Parce que c'est un déficit de participation qui renvoie à un déficit de pouvoir. Il n'y a pas plus de participation aux élections européennes qu'aux élections fédérales américaines ou aux élections fédérales suisses, parce que Washington n'a pas tous les pouvoirs aux États-Unis, sauf pour les relations extérieures, et Berne n'a pas tous les pouvoirs en Suisse. De la même façon, Bruxelles n'a pas tous les pouvoirs en Europe. Bruxelles est tout à fait responsable de ce qui se passe dans les pays où l'Europe FMI est entrée en jeu. Parce que l'Europe FMI, oui, c'est une rupture particulière dans quatre pays. Maintenant, l'Europe FMI est déjà sortie du Portugal et de l'Irlande. Mais l'Europe FMI, oui, peut être jugée responsable de ce qui se passe en Grèce et à Chypre, parce que là, elle a eu, parce qu'elle est devenue créancière de pays qui étaient en faillite et qui ont demandé de l'aide, une solidarité tout à fait intéressée, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, mais n'empêche qu'il y a eu une solidarité de l'aide, et là, elle est responsable, parce que là, elle a les pouvoirs, elle a les pouvoirs. Mais le reste du temps, elle n'en a pas tant. Et donc, si à l'intérieur de la même Union européenne, vous avez 4,5% de chômage en Allemagne, 10 à 11% en France, et puis 25% en Grèce. Je s'en suis désolé, mais les responsabilités sont aussi et essentiellement au niveau national. Et je veux dire que si les Français étaient franco-sceptiques en 2005, je comprends pourquoi ils l'étaient, et je comprends pourquoi ils le sont toujours en 2015, de ce point de vue-là. L'Europe a bon dos.
Michel Soudet, si les Européens votaient majoritairement à gauche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que la plupart des gouvernements sont plutôt des gouvernements de droite et conservateurs, l'Europe serait à gauche et les traités s'adapteraient à la nouvelle donne européenne.
Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a eu un système en France pendant longtemps où on disait que le Sénat ne pouvait jamais être pris par la gauche. Et ça a été vrai pendant des années et des années.
On a dit aussi que dans la Constitution, les traités, la Ve République ne s'adaptait pas à un gouvernement de gauche.
Oui, enfin, si tant est qu'il est encore de gauche. Là, dans les traités, nous avons clairement, sur plusieurs articles essentiels, quand vous voulez libéraliser un secteur ou des circulations de capitaux, que sais-je encore, il faut la majorité qualifiée. Ça suffit. Quand vous voulez restreindre ce genre de choses, il faut l'unanimité. Pour changer les traités, c'est la même chose. Il faut l'unanimité. Donc, pour pouvoir les changer, il faudrait que l'ensemble des gouvernements soient de gauche. Mais c'est inimaginable.
On peut imaginer aussi que c'est l'expression d'un rapport de force. Donc, il y avait 25 pays à gauche, les trois autres s'adapteraient.
Le minimum serait d'avoir une architecture institutionnelle avec un Parlement européen qui soit véritablement législateur et que l'Union européenne n'empiète pas forcément, ne décide pas à l'avance de politiques très concrètes. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements arrivent, ils sont élus dans leur pays et il y a tout un tas de choses qu'ils peuvent pas faire parce que on leur interdit. Regardez comment la Commission européenne fait des recommandations qui, si elles sont pas suivies, sont ensuite suivies de contraintes plus importantes. On peut aller jusqu'à des sanctions.
Ce sont les États, les gouvernements des États qui ont accepté cette situation.
Oui, et en consultant qui?
Les électeurs lors des élections, Jérôme Carré.
Le traité de Lisbonne dont on parlait, pour pouvoir l'adopter, il y a eu, entre les différents chefs d'État et de gouvernement, un accord que, moi, j'ai appelé, dans Politis, une clause secrète, qui était de ne faire aucun référendum dans aucun pays. Interdiction de consulter les peuples. Ça a été obligatoire pour des raisons constitutionnelles en Irlande, mais ils ont mal voté, ils ont été obligés de revoter, moyennant un gros chèque qu'avait fait José Manuel Barroso lors d'un passage en Irlande juste avant le vote. Voilà où on en est dans la démocratie européenne.
On arrive au terme de l'émission, c'est vous Jérôme Carré qui est le plus jeune de cette table, qui allait avoir le mot de la fin, en deux mots.
Alors en deux mots, je pense qu'on n'y a pas besoin d'être de gauche pour vouloir un SMIC européen. Quand on va dans la rue, puisque les jeunes européens font des actions de rue comme Parole aux citoyens, où on tweet directement les questions des citoyens aux eurodéputés, on voit que pour lutter contre le dumping social et les excès de la directive sur les travailleurs détachés, les gens majoritairement sont en faveur d'un SMIC européen.
Par exemple, c'est aussi une des revendications des 24 points
exactement,
de l'appel des jeunes pour l'Europe. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier. Sur la page de l'émission via RFI.fr, plein de choses vous attendent. Vous pourrez réécouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres d'ailleurs via le site RFI.fr, rubrique émission, et via les applications mobiles d'RFI. Elles sont gratuites, en restant en contact bien sûr avec les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Daniel Ezesquel, que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et dimanche prochain. Nous serons à Helsinki, en Finlande. Au revoir.